7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment apprendre à bien mémoriser ? Avec Internet, avec les smartphones, nos cerveaux sont devenus de véritables passoires. Nous entraînons de moins en moins notre mémoire. Merci Google. Pourtant, l'enregistrement d'informations, le stockage dans la mémoire et la récupération au moment où on en a besoin, eh bien, c'est ce qui fait de nous des êtres intelligents et libres. Alors, quelle méthode pour retenir ses cours, pour retenir un livre, pour retenir des chiffres, pour retenir un discours à prononcer en public ? On aura toujours l'air plus intelligent quand on parle de mémoire. Comment trier, comment hiérarchiser, utiliser l'imagination pour fabriquer des analogies, à quelle fréquence aussi entretenir ses connaissances, comment travailler son attention alors que la technologie précisément nous impose d'être sans cesse multitâche. Nous allons en parler avec notre invitée. Bonjour Anne de Pomereux.
Bonjour.
Vous êtes prof de mémoire, vous publiez 300 pages passionnantes sur le sujet, Éloge de la passoire, aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous connaissez par cœur vous-même toute la chronologie des rois de France,
entre autres, oui.
Et des présidents de la République,
oui.
Votre numéro de passeport,
Passeport, non, mais peut-être carte bleue, c'est plus utile.
Ouais,
en
ça,
fait.
Je ne vais pas vous le demander en direct. de carte de sécurité sociale, tous les téléphones de vos proches, les noms des personnes que vous rencontrez, des poèmes. Pourquoi faire ?
Pour le plaisir.
Seulement ?
Pas que pour le plaisir, mais avant tout pour le plaisir. Alors quand je parle de plaisir, c'est surtout les poèmes qui me... Finalement, j'en apprends pas énormément, mais quelques-uns. Et ça me nourrit, en fait. C'est une nourriture intérieure.
Mais surtout, vous dites bien dans votre livre, plus on connaît par cœur, plus on peut raccrocher d'autres connaissances à ce qu'on connaît déjà par cœur.
Exactement. Si je me suis intéressée à ce sujet, c'est précisément parce que je n'avais pas une excellente mémoire. C'est tout le paradoxe.
Oui, alors je précise que quand même vous êtes diplômée d'HEC, grande école de commerce, et qu'a priori, si on a bien réussi scolairement, c'est qu'on a une bonne mémoire.
Ben, pas forcément, on peut avoir... Enfin, j'ai, par rapport à d'autres, franchement, j'étais pas vraiment pas du tout la meilleure. Mais je savais, en fait, intuitivement, me débarrasser de l'information encombrante.
Alors,
retenir l'essentiel.
Exactement. Comment je retiens l'essentiel et j'oublie le reste, c'est le sous-titre de votre livre. On sera aussi en ligne avec Sylvain Estadieu. Sylvain Estadieu a 33 ans, il est champion de France de mémoire, record de France du nombre pi en récitant dans l'ordre 4681 décimales. Il est arrivé troisième au championnat du monde en décembre dernier qui se sont déroulés en Autriche. Et quant à vous les voisins, c'est le moment de nous parler de vos difficultés quotidiennes à mémoriser. On est tous plus ou moins concernés. Moi je connais le numéro de téléphone par cœur du standard et j'espère que vous en faites autant. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Et puis en fin d'émission, après l'agitation dans nos cervelles, un peu de calme, la chronique de Marie Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, comment endormir les bébés.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Tout de suite, je vous propose d'écouter des lycéens qui ont participé la semaine dernière à votre stage, Anne de Pomereux, stage de mémoire. Ils ont appris des techniques pour s'approprier les cours comme image mentale, les stocker dans ce que vous appelez le palais de la mémoire, le palais, le château. C'est au micro d'Anaït Mérigianian.
À force d'avoir tout en dehors de nous, sachant qu'on a du mal à mémoriser, parce que c'est fatigant, on ne mémorise plus. Sauf vous à l'école, et encore, pas partout. C'est un peu comme si ça fragilise en fait la mémoire humaine.
Alors, je m'appelle Edouard, j'ai 16 ans et je suis en première. Je suis venue pour apprendre à apprendre plus vite et à mémoriser plus vite. Quand je dis faut mémoriser, je mets beaucoup de temps à tout apprendre. Donc j'ai un peu plus de mal.
Je m'appelle Arthur, je suis en internat et j'ai 16 ans. Je suis venu aujourd'hui pour essayer de trouver une nouvelle méthode, pour avoir une approche différente de l'école et pouvoir peut-être mieux travailler ou plus intelligemment. Quand c'est une technique, une formule, par exemple en mathématiques, c'est assez simple. Mais quand il faut des connaissances plus vastes, par exemple le français ou l'histoire géo, ça devient plus compliqué parce qu'il faut de la culture générale. Et comme j'en ai pas énormément, ça marche pas très bien, quoi. La manière d'apprendre des mots aussi rapidement en associant une image, par exemple, ça peut faire des trucs de temps en temps drôles et en même temps c'est surprenant à quel point ça peut marcher.
Donc maintenant je vous laisse redonner vos mots. Vous allez dans la page.
Comment ça marche vos stages, Anne de Pomereux? C'est quoi les exercices là qui ravissent les lycéens?
Alors je leur montre en fait que c'est facile d'apprendre par cœur en quelques minutes, mais directement dans la mémoire à moyen terme et à long terme si on pratique un peu. Et là en fait c'était une liste de 20 mots, qui étaient 20 mots qui en fait étaient les 20 pays les plus peuplés du monde dans l'ordre. Et on fonctionne tout simplement avec les images mentales qu'on dépose dans un palais de la mémoire. Bon, c'est une technique extrêmement ancienne en fait, qui date pour l'Occident. Elle nous a été transmise par les Grecs et les Romains. Et puis cette technique a été vraiment donnée et transmise pendant des siècles. Et puis elle est tombée dans l'oubli à cause des mémoires externes.
On parlait du palais de la mémoire à l'époque ?
Mais bien sûr, oui, bien sûr. Et le premier traité de la mémoire, il s'appelle le traité à Hérénius, il date de 100 ans avant Jésus-Christ.
Par exemple, vous avez stocké la liste de tous les rois de France, vous les placez en fonction des siècles, des époques, dans des pièces différentes.
Exactement.
Dans une maison, réelle ou imaginaire, dans un appartement. Ouais, il y en a certains qui passent dans d'autres lieux, dans une maison à la campagne.
C'est qu'une question d'organisation des données. C'est-à-dire que pour ne pas se mélanger les pinceaux, le plus simple pour une chronologie un peu longue comme celle des rois de France, si on commence à Hugues Capet, c'est juste avant l'an 1000, c'est de déposer les rois par pièce en fonction des siècles.
Vous mettez qui à la cuisine alors ?
Ça dépend, enfin peu importe, c'est dans l'avancement du parcours. Il n'y a pas des pièces réservées à certains rois, ça n'a aucune importance en fait. L'important c'est que c'est l'ordonnancement du trajet qui redonne l'ordonnancement des rois. Et c'est très facile en fait. C'est d'autant plus facile qu'à l'époque les règnes étaient longs, très longs, puisque par exemple au XIe siècle il n'y avait que 3 rois. Aujourd'hui, vous voyez, depuis la Ve République, on en est déjà une dizaine de présidents.
Alors, le principe, c'est l'encodage, j'enregistre les informations, le stockage dans des lieux fictifs ou réels, mais en tout cas dans votre tête, c'est ça. Vous allez stocker les informations dans différents lieux qui vont procéder par association, et ensuite la récupération au moment où j'en ai besoin. Là, c'est plus compliqué. Vous travaillez beaucoup avec l'imagination. Qu'est-ce que ça a à voir, l'imagination, avec la mémoire?
Mais c'est justement, l'imagination, c'est ce qui permet d'encoder. Quand on pense à mémoire, on pense immédiatement à rabâchage. Je répète et je répète et je répète jusqu'à ce que ça rentre. Et effectivement, ça rentre, au bout de 8 répétitions minimum. Donc c'est pas du tout amusant, c'est très fastidieux et en plus ça marche très moyennement. Grâce à l'imagination, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire sortir les mots d'une liste, par exemple, les faire sortir de la liste et les rendre vivants.
C'est ça. Là, vous par exemple, il y a un test, il y a une liste de 20 mots. En principe, quand on n'est pas habitué, on va mettre 10 minutes à mémoriser ces 20 mots. Alors, il y a sac, lapin, violon, poignet, valise, mangue, fouet, dossier, professeur.
Peu importe.
Il faut 10 minutes. Oui. Quand on est entraîné, ça tombe
à
combien ?
Là, il faut demander à votre champion de la mémoire, mais plus l'entraînement fait le talent, et c'est plus on est entraîné, plus on va vite. Disons qu'une liste de 20 mots comme ça, un néophyte mettrait 10 minutes, quelqu'un d'un peu entraîné, moyennement entraîné, mettrait 3 minutes, et puis un champion mettrait moins d'une minute.
Et vous mettez combien ?
Moi, je me dirais 3 minutes, parce que je suis entraîné, mais c'est quand même la nouveauté, mon âge font que je sais que je vais y passer un peu plus de temps qu'un champion.
Comment vous mémorisez ces 20 mots en 3 minutes ?
Eh bien, c'est simple, en fait, je les transforme, je les fais sortir de la liste et je les vois. Je les mets en situation par une imagerie mentale.
Fleur.
Fleur, je vois une fleur et pour qu'elle me marque,
ça, c'est facile.
Je la mets en scène d'une manière assez amusante. Mais par exemple, pour revenir sur la liste des 20 pays les plus peuplés, ce qui est amusant, c'est qu'on ne va pas retenir facilement quelque chose d'abstrait. Par exemple, un pays comme la Chine, ensuite l'Inde, ensuite les États-Unis, l'Indonésie.
Surtout, c'est un pays qu'on ne connaît pas, on n'y est pas allé, qui n'évoque rien de très précis pour nous.
Toute l'astuce de l'imagination, c'est de transformer ces noms de pays en indices visuels. Par exemple, la Chine, moi, je transforme en dragon. Un dragon, je peux le voir, je peux le mettre en scène, c'est amusant. Et donc, je vais poser mon dragon dans mon premier point de passage. Ensuite, Gandhi, pour moi, c'est l'Inde. Donc, je vais voir Gandhi dans mon deuxième point de passage. Et puis ensuite, les États-Unis, ça va être un cow-boy. et l'Indonésie. Alors, je n'ai pas d'indice symbolique pour l'Indonésie, donc je vais chercher autrement. Je vais chercher un indice sonore. Et pour moi, Indonésie, ça commence par Inde. Donc, je prends un cochon d'Inde. Cochon d'Inde, ça va être mon petit personnage qui va me rappeler que c'est l'Indonésie.
Et dans vos têtes, vous déambulez dans ce palais de la mémoire,
oui.
Pièce après pièce, dans les couloirs, et tous les personnages prennent vie, et ensuite ce sont les mots qui reviennent.
Exactement. En fait, l'indice, c'est l'hameçon qui va me permettre de repêcher mon poisson. Mon poisson étant ce que je veux mémoriser. Là, en l'occurrence, ce serait des pays.
Ça peut sembler quand même étonnant d'entendre des jeunes, là, comme à votre stage, qui ont des problèmes de mémoire, quand même.
Alors, les jeunes, en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes de mémoire que nous, qui avons passé un certain nombre, qui sommes déjà d'un certain âge. Ils ont une mémoire qui fonctionne bien. Leur problème à eux, c'est qu'ils ne savent pas comment mémoriser. C'est-à-dire qu'ils essayent de tout mettre d'un coup. Donc, en gros, ils avalent. Au dernier moment, en général, et le lendemain, le jour de l'examen, ils recrachent. Voilà. Et ensuite, ils oublient. L'avantage de la technique, et ce que j'essaye de les convaincre de faire, c'est de ne pas apprendre comme ça. C'est-à-dire d'apprendre intelligemment, en comprenant, et en apprenant sérieusement que 20% d'un cours. Parce que ces 20% vont largement suffire à reconstituer le dossier. Et c'est comme ça que la mémoire fonctionne durablement.
C'est-à-dire qu'on apprend les 20%, mais le reste, en fait, pourra revenir au moment où on en aura besoin.
Oui, absolument. Par la compréhension et par le cheminement. Parce qu'un cours, ça part toujours d'un point, et ça, c'est un chemin, et ça déboule sur une fin. Et donc c'est ça que j'essaye de leur faire voir. Et pas de tout avaler d'un coup.
Marguerite au Cameroun vous pose une question, Anne de Pomereux. Quand on oublie beaucoup, est-ce à cause de la distraction ou est-ce que c'est un signe de vieillesse?
Alors, aujourd'hui,
en gros,
l'âge
d'or de la mémoire.
L'âge d'or de la mémoire, c'est avant 25 ans, je dirais. Entre 15 et 25
ah ouais,
ans.
Ah ouais, quand même.
Oui. Après, ça décline un peu, ce qui est normal, mais une mémoire entraînée est toujours très fiable jusqu'au bout. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le problème du monde dans lequel on vit, c'est qu'il est surchargé d'informations. Et que cette information, elle est à l'extérieur de nous. Elle n'est plus du tout internalisée, comme autrefois. Notamment en Afrique d'ailleurs, où il y avait la tradition orale. Et donc, on est sans arrêt distrait par cette surcharge d'informations. Et comme on est curieux, mais qu'on n'aime pas tellement apprendre, on ne va pas se donner le mal d'apprendre et on va zapper d'une information à l'autre. Et ça perturbe énormément la mémoire.
Alors, tout le travail que vous faites en tant que prof de mémoire, c'est effectivement un travail de synthèse, de sélection des informations,
absolument.
Puisque vous le disiez.
Ouais.
Sur un cours, on peut apprendre que 20% et le reste ira se raccrocher naturellement. Mouloukou vous pose une question. Est-ce que oublier les détails est un signe d'intelligence?
À mon avis, oui. Mais je parle peut-être que pour moi, là. Et oublier. D'ailleurs, dans les gens heureux, c'est des gens qui se souviennent. Enfin, une mémoire de quelqu'un qui est heureux va sélectionner que les bons moments et oublier les mauvais. Quand on est dépressif, c'est exactement le contraire. Va remonter à la surface les mauvais moments, voyez ? Donc la mémoire, là, c'est pas grave d'avoir une mémoire passoire. À condition de mettre les trous au bon endroit, en fait.
C'est ça. Alors, vous dites que la mémoire des émotions, c'est celle qui reste le plus,
oui.
Finalement.
Oui. Oui, oui, même chez les gens qui ont, pour le coup, des troubles de la mémoire, après un traumatisme crânien ou une maladie.
On garde très longtemps la mémoire d'un sentiment amoureux, par exemple.
Oui, 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 ou d'une amitié, ou même d'une intuition que j'aime ou j'aime pas, même si on ne connaît pas, en fait.
On parle souvent de différents types de mémoire. On parle de mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire à court terme, mémoire à long terme. Scientifiquement, c'est quoi les différents types de mémoire et à quoi elles servent?
Alors, scientifiquement, en fait, ce que la neuroscience et l'imagerie médicale a permis de mettre vraiment en lumière, c'est que la mémoire, c'était quelque chose d'assez compliqué et que c'était pas une mémoire, mais qu'il y avait plusieurs mémoires. Il y a pas moins de 5 systèmes de mémoire. Il y a une mémoire consciente. Dans la mémoire consciente, donc c'est la conscience qui rappelle les souvenirs. Il y a la mémoire sémantique, donc les apprentissages, celle que je travaille le plus, moi, puisque c'est celle qui est utile pour l'école, notamment. Et puis il y a la mémoire de notre vie, nos souvenirs. Les souvenirs, c'est toujours une reconstruction. Et puis il y a des mémoires inconscientes, et qui sont donc plus solides, notamment la mémoire qu'on appelle procédurale, c'est la mémoire des gestes. Celle-là, elle résiste bien mieux. Par exemple, vous apprenez à faire du vélo, et on ne peut pas désapprendre à faire du vélo. Une fois qu'on sait, l'apprentissage est long et fastidieux, mais une fois qu'on sait, on sait. Et même si on a des troubles de la mémoire, on continuera à savoir faire du vélo assez tard.
C'est la même chose pour des musiciens, par exemple, certains qui ont perdu complètement la mémoire suite à un accident, qui ne reconnaissent plus du tout leurs proches, ou même ce qu'ils ont fait une heure avant, ils sont encore capables de déchiffrer de la musique.
Alors, il y a un cas qui est tout à fait spectaculaire, qui est un chef d'orchestre américain, je crois, qui s'appelle Clive Wearing, qui était un chef d'orchestre tout à fait reconnu et qui avait une grande carrière. Et cet homme, malheureusement, a attrapé un virus qui s'est logé dans ses méninges. Et ça a détruit complètement ses hippocampes. Et du coup, il a perdu la mémoire, mais complète. Et c'est comme Alzheimer. Il ne reconnaît que sa femme. Et ne se souvient... Alors, vous lui posez une question dans une phrase. À la fin de la phrase, il ne se souvient plus du début de la phrase. À tel point, sa mémoire est plus du tout efficace. Et pourtant, il continue à jouer du piano. Vous voyez, donc c'est typiquement...
Donc c'est la mémoire qui est restée dans les doigts.
C'est la mémoire qui est restée dans les gestes, dans le corps. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres corporels et que la tête, elle n'est pas en dehors du corps.
Et parfois, vous utilisez le corps, comme dans certaines méthodes Montessori, méthodes pédagogiques, pour la mémorisation ou pas ?
Alors,
des gestes, les... vous n'en parlez pas tellement.
Non, finalement. J'en parle pas tellement, sauf pour l'éducation des enfants. Je pense que la méthode Montessori est extrêmement intéressante. Et que, enfin, la méthode Montessori ou ses dérivés, notamment tout le travail qu'a fait Céline Alvarez à Gennevilliers il y a quelques années, qui est une adaptation de la méthode Montessori. C'est-à-dire, ce qui est très très important chez les petits, c'est la répétition des gestes. Voilà. Et c'est cette répétition des gestes qui va permettre les apprentissages les plus théoriques, comme compter ou lire. Et ça, c'est très intéressant.
Un auditeur vous pose une question. Kevin, à Libreville, il a 18 ans, il est en classe de terminale. Je perds les objets car je ne me souviens plus où je les ai mis. Comment faire ? Et j'en profite d'ailleurs, ça va vous laisser le temps de réfléchir à la réponse, pour vous rappeler le numéro de téléphone du standard 33 1 84 22 71 71. Évidemment, vous nous téléphonez pour poser de mémoire vos questions à Anne de Pomereux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Kevin, 18 ans, en terminale, il ne se souvient plus où il a mis les objets ?
Alors, je pense que ce n'est pas un problème de mémoire, mais c'est un problème d'attention. C'est-à-dire qu'au moment où il a posé son objet, sa pensée n'était pas avec... ses mains, ou son bras, ou ses yeux, au moment où il a posé son objet. Et donc, comme son attention était divisée, et que l'attention ne se divise pas, il ne se souvient plus, parce que pour lui, ce n'était pas important, le geste qu'il a posé au moment où il a posé ses clés n'était pas important. Alors, pour remédier à ce petit problème, il faut qu'il puisse soit, tout simplement, attribuer une place aux objets, pour ne pas les perdre. Les clés doivent être toujours rangées au même endroit, par exemple. Alors ça résout beaucoup de problèmes.
Et associer l'image mentale des clés avec l'endroit où on va toujours les mettre.
Oui, mais surtout, en fait, avoir toujours le même endroit. Donc, comme ça, on n'a pas besoin d'y penser.
Donc là, c'est la mémoire du geste.
Oui, non, c'est même pas la mémoire du geste. C'est-à-dire que s'il ne veut pas déposer de l'attention avec le moment où il range quelque chose, c'est ça qu'il faut faire. Ou sinon, mais ça, il faut une mémoire consciente, être plus attentif au moment où il fait un geste. C'est-à-dire ne pas penser à deux choses en même temps.
Oui, c'est toute la difficulté. Les cadres perdent 2 heures par jour à remobiliser leur attention parce qu'ils sont interrompus tout le temps. Donc ça, c'est le travail toute la journée où on est tout le temps interrompu et où forcément, ça altère la mémorisation. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle de la mémorisation, de la mémoire, comment booster notre mémoire. Tout de suite chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Amadou est en ligne avec nous de Conakry. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la RFI.
Eh bien vous êtes le bienvenu Amadou, vous avez 22 ans, vous avez eu, j'ai l'impression que c'est un peu passé, mais vous avez eu de gros problèmes de mémoire Amadou.
Oui bien sûr, j'avais un gros problème de mémoire parce que j'oubliais beaucoup, parce que quand les gens m'appelaient pour me demander des services, par exemple j'étais au téléphone, quand la personne raccroche, alors immédiatement j'oublie qu'elle m'a dit. Et ça m'impactait beaucoup parce que le milieu social me disait que je refusais de leur rendre service.
Ah oui, c'est-à-dire, attendez, vous aviez raccroché le téléphone et déjà vous aviez complètement oublié qu'on vous avait appelé pour vous demander un service.
Bien sûr, j'oublie complètement le service qu'on m'a demandé.
Ouais.
Et là, je ne me mettrai pas tout à la demande.
Donc on vous dit que vous êtes égoïste, quoi, c'est ça?
On me dit que je suis égoïste, j'oublie, je refuse carrément de les rendre service.
Ouais.
Et alors là, je me suis dit, il faudrait que je change. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à suivre des cours de développement personnel qui m'ont beaucoup aidé. Mmh. Et à partir de là, je me suis dit, tout ce qui peut m'arriver, ça m'arrive parce que j'ai envie que ça m'arrive. Donc, ça dépend de ma volonté, c'est de ma responsabilité. Il faudrait que je prenne en charge cela pour que ça change.
Redevenir maître de vos actions, de ce que vous pensez, de vous-même, finalement.
Voilà, ça exactement. Et donc, aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'oublie de moins en moins. Et ça m'aide beaucoup, c'est pour le développement personnel. Bon, là, il existe une question par rapport à ce problème d'oubli, à ce problème d'oubli. Et en fait, la question que je voudrais poser, est-ce que cela est lié à un facteur social? Quand je dis à un facteur social, c'est-à-dire, si nous prenons l'exemple d'un jeune qui est issu d'une famille pauvre, et que ce jeune-là est ambitieux pour faire ses études, ou bien il a envie d'étudier, et que ses parents ne voudraient pas qu'il parte à l'école. Alors, dans ce cas-là, les parents voudraient qu'ils partent chercher de l'argent. Il a une sorte de pression familiale.
Oui, une pression. Non, mais là, attendez, vous parlez d'une pression psychologique, Amadou. C'est-à-dire qu'on dit à un jeune, je ne sais pas, ça a été votre cas, non, par exemple, ou pas?
Bon, je connais pas mal de personnes qui ont dit,
tu n'as rien à faire à l'école, il faut que tu ailles travailler, gagner de l'argent. Et donc,
et donc
à l'école, on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas à l'aise, forcément. C'est ça, c'est bon, vraiment vous parlez d'une pression psychologique pour moi.
Voilà, en fait c'est une pression psychologique, comment je considère, dans la mesure où les parents ne voudraient pas que l'enfant part à l'école étudier. Mmh. Parce qu'eux, ils supposent que si l'enfant part à l'école étudier, il ne peut pas rapporter de
l'enfant. Okay.
Et cela les met dans une situation où il ne peut pas retenir les choses.
On a bien compris la question. Merci beaucoup, Amadou, de la poser. Alors, est-ce que une pression psychologique, un problème affectif chez un enfant, un adulte, ça peut altérer les facultés de mémorisation?
Je suis pas forcément spécialisée dans ce genre de cas. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a des injonctions contradictoires, c'est à la fois l'école demande à l'enfant d'apprendre ses cours et les parents, visiblement, ne sont pas d'accord parce que c'est pas la priorité pour eux. Mmh. Ça met forcément mal à l'aise l'enfant qui ne pourra pas se donner pleinement à sa tâche prioritaire d'écolier qui est d'apprendre. Ouais, donc c'est forcément embêtant.
Et vous le dites beaucoup dans votre livre, mémoriser, c'est d'abord décider que l'on va retenir. Enfin, il n'y a pas que la volonté. Non. Mais Babacar à Dakar pose une question, il est analyste financier, il a 32 ans. Il dit, quand je me concentre, la mémoire est là, quand le stress arrive, il a des problèmes de mémoire.
Alors, bien sûr.
Comment le stress impacte la mémoire?
Alors, c'est très simple à comprendre. C'est quand le stress est là, c'est l'amygdale, qui est une structure cérébrale au centre du cerveau, qui se met en alerte. Et ça, c'est une structure qui est dans le cerveau reptilien, ou le cerveau vraiment le plus profond. Et quand l'amygdale se met en route, elle envoie des hormones qui sont destinées à mettre le corps en alerte face à un danger, avec des réactions qui sont soit on va aller au combat, soit on va s'enfuir. Et du coup, pour que ce corps soit le plus réactif possible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper la relation avec le cerveau préfrontal où se passe justement la mémorisation, la conscience, etc. Donc ça bloque l'accès aux données. En fait.
Et en même temps, il y a des situations de stress où, au contraire, ça mobilise une attention intellectuelle extrême et on est complètement ouvert pour mémoriser.
Alors, il faut que ce soit un stress qui ne soit pas une peur, en fait. C'est toute la difficulté. Il faut qu'il y ait un certain niveau de stress pour pouvoir s'engager. D'accord ? Quand on a un examen à préparer, on a une espèce de pression du temps qui fait qu'on va s'y mettre. Si on n'a jamais d'échéance, la difficulté va être de se mettre en mouvement. Mais si ce stress envahit et devient de la peur, alors ça peut paralyser et donner la page blanche ou le trou de mémoire, à cause de cette peur qui envahit tout.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 Babacar, non, c'est Jean à Franceville qui nous appelle du Gabon. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Vous êtes étudiant, hein, c'est ça?
Oui, je suis étudiant en physique.
Ah, oui. Et donc, question sur la mémoire.
Et donc je pense que je n'ai pas une bonne mémoire. Peut-être que c'est moi ce que je pense, mais souvent je retiens les choses quand je les comprends.
Ah ben bien sûr.
J'arrive à démonter une formule physique, je peux la retenir.
Ouais.
Et souvent je suis confronté à des problèmes vraiment précis qui font que si je n'arrive pas à démontrer une formule, par exemple l'équation de Schrödinger, et j'arrive pas à démontrer, j'ai du mal à retenir cela. Est-ce qu'il y a des méthodes me permettant de retenir des formules de physique sans forcément les comprendre, donc pouvoir les démontrer?
Oui, alors vous appuyez là sur quelque chose de très important, c'est que la mémoire est liée à la compréhension. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans des matières scientifiques. Maintenant, il y a en fait, vous pouvez mettre des méthodes pour retenir la formule sans forcément la comprendre, avec l'imagerie mentale, ça marche très bien. C'est un peu plus compliqué avec des formules de maths, parce qu'on passe par des chiffres, donc il faut coder l'information. Mais ça vous permettra, si vous voulez, de retrouver la formule et de retrouver la compréhension. C'est quelque part faire un raccourci. Voilà. Mais dans les matières scientifiques, ce qui est sûr, c'est que la compréhension est clé. Donc vous avez raison, quelque part, d'aller sur le chemin long qui est celui de retrouver par le raisonnement. Maintenant, si vous voulez avoir ce raccourci, il faut déposer, enfin, il faut mettre en place la technique d'imagerie mentale. Ben, j'ai pas le temps de l'expliquer. Là.
Ouais, c'est et elle est compliquée parce que quand on la lit dans votre livre, ouais. Ça donne quand même des choses assez compliquées. Mais ça veut dire qu'en gros, ça devient un dessin animé quand on retient des chiffres.
Hein.
Alors, un exemple, le numéro de votre coiffeur, c'est 01 47 31 86 75. Ouais. Pour tous ces chiffres, il y a des personnages que vous avez inventés, mais qui ont un lien avec votre vie, très certainement. Le personnage de 47, c'est Rock, qui fait l'action de 31 Marco, qui pilote sa moto. Comme Rock ne fait jamais de moto, cette image me frappe et je la retiens parce que c'est des gens que vous connaissez. Je vois donc Rock qui arrive en moto chez mon coiffeur, 47-31, et dans le salon, une vache qui mange une branche d'eucalyptus, 86-75. On va pas vous demander comment vous êtes arrivé à un scénario pareil pour retenir un numéro de téléphone, mais en fait, tout le monde est capable de se créer un dessin animé, un film pour retenir des numéros, à savoir ensuite, c'est est-ce qu'on arrive à les actionner. Est-ce que vous voyez vaguement de quoi on parle, Jean? Parce que ça, de loin, oui, moi, ça me semble un peu perturbant quand même, cette méthode.
Oui, en fait, je me rends compte. C'est une méthode que j'utilisais déjà. Pourquoi? Parce que il y a un concept en mathématiques, il y a un symbole qu'on appelle le symbole du chroniqueur. Ça veut dire que souvent, une multiplication donne 0, souvent, ça donne 1. Et moi, quand ça donne 0, j'appelle ça quelqu'un perdu. Donc, c'est comme lors d'un match de football, quelqu'un a perdu le match.
Ah,
donc, c'est 0.
D'accord.
Et ouais. Comme ça donne 1, je dis que c'est match nul.
Ah,
et
ouais.
Le match de football, c'est sorti. Le score était 1-1. Et j'arrive à retenir en fait, ce produit-là comme ça.
Oui, oui, c'est tout à fait l'idée, en fait. L'idée, c'est de sortir du chiffre pour rendre ces chiffres vivants. Et alors, il y a plusieurs méthodes. La méthode dont je parle dans le livre, elle date quand même de l'époque du XVIIIe siècle. Hein. C'était les mathématiciens à l'époque de Leibniz qui ont mis ça en place. Et elle n'a fait qu'être améliorée au fur et à mesure. Enfin, pas tellement changée, en fait, juste un tout petit peu améliorée. Et il y a, dans les champions de mémoire aussi, ils ont mis en place ces systèmes de codage pour que les chiffres deviennent des personnages, en fait.
Alors,
simplement.
Justement, puisqu'on parlait de champion de mémoire, Jean, vous allez raccrocher, mais surtout, vous restez bien branché à l'émission en direct, 7 milliards de voisins sur RFI, à Franceville, au Gabon, parce qu'on va donner la parole à un champion de mémoire dans quelques instants. Merci à vous, Jean, et très bonne journée.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
On est en ligne avec un champion de France de mémoire. Bonjour Sylvain Estadieux.
Bonjour à vous.
Vous avez 33 ans. Vous êtes arrivé 3e au championnat du monde de la mémoire. C'était en décembre dernier en Autriche. Déjà bravo.
Merci beaucoup.
Ça ressemble à quoi un championnat du monde de mémoire ?
Alors vu de l'extérieur, ça ressemble à un examen en fait. Donc le concept, c'est que nous avons en fait 10 épreuves de mémorisation. Et donc vu de l'extérieur, c'est juste en fait une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de personnes dans une salle d'examen qui regardent leurs papiers pendant des durées de 5 minutes à 1 heure et qui ensuite ont une durée encore un peu plus importante pour restituer en fait toutes les informations qu'ils ont retenues. Mmh. Donc, vu de l'extérieur, c'est pas très, très
passionnant. Rien de spectaculaire.
Ouais. Non, non, non.
L'épreuve la plus difficile, selon vous ?
Ça serait peut-être la toute dernière épreuve, qui est en fait la mémorisation d'un jeu de cartes dans l'ordre, le plus rapidement possible. Donc là, il y a beaucoup de stress en fait lors de cette épreuve parce qu'on veut vraiment essayer de pousser ses limites. Donc les meilleurs peuvent retenir un jeu de cartes en 15 secondes, par 15 exemple.
Secondes. 15 secondes mais, pour mémoriser un jeu de cartes de combien de cartes ?
52
cartes. Anne de Pomereux, qui est dans le studio avec nous, nous disait tout à l'heure dans l'émission, bon, les tout premiers tests à faire pour tester un peu sa mémoire, 20 mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Si on n'est pas entraîné, on met 10 minutes. Anne, elle met à peu près 3 minutes. Vous, vous mettez combien de temps pour retenir 20 mots qu'on vous donne comme ça ?
Alors, sur 20 mots, ça prendrait environ une vingtaine de secondes, 25 secondes.
Ah oui.
C'est toute la différence.
20-25 secondes pour retenir 20 mots dans le désordre.
Mais ça ne m'étonne pas, c'est juste de l'entraînement en fait. Et la technique est la même, mais selon l'entraînement, on met plus ou moins de temps.
Comment vous êtes tombé là-dedans, Sylvain Estadieux, dans la compétition de mémoire ?
Alors, je suis tombé sur un livre, en fait, il y a quasiment une dizaine d'années, qui expliquait un petit peu, justement, tout ce concept derrière les compétitions de mémoire et qui a ensuite creusé un petit peu dans les techniques, par exemple, qui expliquait quelques techniques de mémorisation. Et j'y ai pensé pendant un petit moment, j'ai oublié ce livre pendant quelques années, je l'ai ressorti récemment et j'ai essayé de me construire, en fait, ces systèmes dont vous parliez tout à l'heure. Pour retenir des chiffres et des cartes.
Mais vous avez toujours été doué d'une excellente mémoire ou peut-être vous adoriez déjà petit mémoriser et c'est pour ça que vous aviez une bonne mémoire, enfin, je ne sais pas, non ?
Non, pas vraiment, non. Voilà. En fait, c'est un point commun entre tous ceux qui participent à ces compétitions de mémoire. Personne n'a vraiment une mémoire, disons, naturelle qui est particulièrement bonne, en fait. Mais tout le monde a la motivation, en fait, pour
C'est aimer la compétition.
Mais attendez, première compétition en 2016, pour vous, 3 mois d'entraînement et vous arrivez...
J'ai dû faire une 5e place sur... 7 participants, mais j'ai réussi à récupérer la première place française. En fait,
Vous entraînez combien d'heures par jour quand vous préparez les championnats du monde ?
Pour les championnats du monde, c'était en moyenne sur les dernières semaines ou les 2 derniers mois, aux alentours de 3-4 heures quasiment par jour.
3-4 heures d'entraînement de mémorisation par jour. Votre routine mémoire dans la vie quotidienne, c'est quoi ? C'est sous la douche, dans le bus
Oui, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut faire ça à peu près n'importe où, une fois qu'on a ces systèmes qui sont encodés dans sa tête. Donc, je fais ça en général dans le bus. Donc, j'ai une demi-heure tous les matins, une demi-heure tous les soirs dans le bus pour m'entraîner. À la pause de midi, je peux trouver encore une heure. Le soir, je peux faire des épreuves un peu plus longues, donc passer 2-3 heures.
Donc là, vous vous entraînez à visualiser, mémoriser, stocker, restituer, c'est ça ? Ou vous récitez des choses mentalement ?
Et il y a plusieurs choses qu'on peut faire, en fait. On peut faire des épreuves elles-mêmes, donc juste se donner une liste de chiffres, de 500 chiffres, par exemple, et essayer de les mémoriser en 5 minutes et voir comment ça marche ce jour-là. Ou alors, on peut juste travailler ces systèmes. Donc, juste, en fait, se questionner soi-même, se donner un chiffre ou un nombre, 1, 2, 3, par exemple, et essayer de convertir le plus rapidement en image.
Forcément, quand on vous écoute, on se dit, mais à quoi ça vous sert ? Anne de Pomereux, elle dit beaucoup, ça renforce l'estime de soi. Quand on est intelligent, on a une confiance en soi, on se sent puissant. Est-ce que c'est un sentiment que vous connaissez ?
Oui, c'est vraiment ça. C'est d'une sorte, en fait, quand on me demande les applications dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours... Je vois vraiment ça comme une espèce de boost pour la confiance en soi. C'est comme si on avait en fait une espèce de filet de sauvetage, un filet de sécurité en fait, lorsque on arrive dans des situations où il faut effectivement mémoriser des choses.
Par exemple,
on sait qu'on a ces méthodes. Par exemple, si on arrive dans une réunion avec des gens qu'on ne connaît pas. Ils vont se présenter à nous et en tant que compétiteur de mémoire. On a déjà en fait eu à mémoriser des trombinoscopes, par exemple, donc des noms associés à des visages.
Ah oui.
Donc en fait, on a des méthodes qui vont nous permettre d'assez facilement retenir tous ces noms, prénoms et visages.
Donc ça, c'est très pratique.
Ouais. Vous habitez en Suède, à Göteborg. Comment vous gagnez votre vie, Sylvain Estadieux ?
Je travaille comme ingénieur dans l'automobile actuellement.
Et vous êtes redouté dans votre boîte ?
Non, disons que mes collègues connaissent un petit peu, mais...
Vos hobbies, un peu particuliers.
Oui, voilà.
Merci beaucoup en tout cas et bravo. Hein, troisième au championnat du monde de mémoire en Autriche en décembre dernier. Merci à vous, Sylvain Estadieu, d'avoir été en ligne avec nous. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec, on est avec Anne de Pomereux qui publie Éloge de la passoire, mémoire, je retiens l'essentiel et j'oublie le reste. Hein. Il ne s'agit pas de tout retenir. On ne pourra pas tous devenir des champions de la mémoire,
pas.
Néanmoins.
Oui, 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 surtout pas. Moi, c'est pas, j'ai pas du tout une approche de champion. J'ai vraiment une approche de d'usage au quotidien et pour les études et pour le bien-être. Mais je me dis, en fait, sur le voilà, les gens qui sont un petit peu déprimés, etc., je serais médecin, je leur prescrirais « apprenez un poème par mois ». Il n'y a aucun effet
alors,
secondaire.
On a beaucoup de questions d'auditeurs qui arrivent là sur mon écran. Ibrahima, 38 ans, il est à Tombacounda, dans le sud du Sénégal. Il dit, moi je ne retiens plus rien, si on me présente quelqu'un ou qu'on me donne un numéro de téléphone, je ne les retiens plus. Alors, je ne les retiens plus. Sous-entendu, ma mémoire est altérée par le vieillissement. Il a 38 ans. On se calme. Comment stimuler cette forme de mémoire? Sylvain Estadieu nous disait, il y a des exercices où on apprend des organigrammes par cœur, c'est-à-dire des noms et des visages. Comment on retient, comment moi je vais retenir, comment vous allez retenir mon nom et mon visage, tiens, par exemple. Alors, peut-être que d'ailleurs ça ne vous intéressera pas du tout et c'est un tri que vous allez faire et il n'y a aucune raison que vous reteniez mon nom et mon visage.
Ça dépend de l'usage en fait, mais on ne peut pas se plaindre d'avoir une mauvaise mémoire si on ne fait rien pour que ça rentre. Voilà, c'est ça le problème, c'est que même à 38 ans, c'est encore un âge très jeune, si on ne pose pas un acte de mémorisation, c'est normal qu'on ne retienne pas. Parce que c'est l'oubli. L'oubli, ce n'est pas le revers de la mémoire. C'est une fonction extrêmement intéressante de la mémoire. Je dirais presque que c'est la fonction noble de la mémoire. Donc, il ne faut pas en avoir peur de l'oubli. Maintenant, si on veut retenir, il faut faire quelque chose. Il faut encoder. Vous voyez, il faut poser un acte.
Mais alors, retenir les visages et les noms.
C'est une question d'attention déjà. Souvent, on ne fait pas attention aux gens qu'on a en face de soi. Par exemple, moi je m'appelle Anne Pénicaud ou Anne de Pomereux, et pour retenir mon nom, si vous me regardez...
je vais penser à Pomme.
Voilà. Pomereux, c'est facile. Vous voyez deux pommes heureuses qui sourient, que vous déposez quelque part sur mon visage. Comme je m'appelle Anne, vous avez quand même rajouté des oreilles d'âne, et vous m'observez, vous mettez, rajoutez ces petites images amusantes, et bingo, vous avez mon nom. Il n'y a aucun problème. Et c'est comme ça qu'on fait, en fait.
Vous conseillez de plutôt avoir un agenda papier pour noter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi j'oublie mes rendez-vous, ce que je dois faire. Vous conseillez de revenir au papier pour l'agenda,
oui.
Pourquoi?
Parce que le rapport physique... je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant.
On mémorise les emplacements déjà sur le papier.
Oui.
Hein.
Et puis c'est visuel, c'est plus visuel. En tout cas, moi, je ne peux pas faire autrement. Maintenant, je conçois qu'on puisse faire tout à fait autrement avec des outils électroniques. Mais l'agenda papier, ça donne une visualisation de la semaine. Et puis, il y a un rapport au réel qui me semble extrêmement intéressant.
Les listes, est-ce qu'il faut faire des listes ou est-ce qu'il faut s'astreindre à retenir ces listes?
Tout dépend de votre enjeu.
On est dans le règne de la to-do list aujourd'hui.
Oui, tout dépend de votre enjeu. Tout dépend de votre enjeu. Alors, les listes de courses, typiquement, moi je conseille de ne pas en faire. Parce que finalement, l'enjeu est faible. Si on oublie quelque chose, ce n'est pas très grave. On peut toujours aller y retourner, ça demande un petit effort. Donc, la motivation va être de ne pas faire trop d'efforts, donc d'essayer de retenir.
Parce que sous-entendu, plus on fait des listes, moins on entraîne sa mémoire.
Plus on met à l'extérieur, c'est plus on met à l'extérieur de soi, moins on s'appuie sur sa mémoire, moins elle va être fiable. C'est plutôt ça l'idée. Mais maintenant, même moi, je fais encore des listes de choses à faire. C'est-à-dire que je décharge ma mémoire aussi pour pouvoir la concentrer sur l'essentiel.
Sur des choses plus importantes. Si on n'entretient pas, si on n'entraîne plus sa mémoire, est-ce qu'on peut la perdre? Est-ce que Sylvain Estadieu, troisième place au championnat du monde, s'il arrête d'entraîner sa mémoire dans quelques années, il peut retrouver une mémoire aussi faible que la mienne?
En tout cas, pour les championnats de mémoire, puisque c'est de l'entraînement et des épreuves qui se courent.
C'est comme le muscle, hein. Il dégonfle ou pas quand
on l'entraîne plus ? C'est pas vraiment un muscle, mais c'est l'entraînement fait le talent. Voilà. Donc, effectivement, si Sylvain arrête de s'entraîner, il va retrouver sa mémoire naturelle, qui est normale, mais qui n'est pas une mémoire de champion.
Et en même temps, vous semblez dire, comme dans votre livre, que plus on a entraîné sa mémoire, plus on va avoir une mémoire qui va quand même, qui va durer.
Fiable, fiable, oui, fiable. C'est-à-dire que si on met... Tout l'enjeu, c'est de mettre des choses... Pour moi, c'est la culture générale qui est importante. Retenir des décimales de pi, c'est très intéressant pour un championnat, mais ça ne va pas transformer ma vie, en fait. Alors que retenir une chronologie de l'histoire, des choses de base, ça peut vraiment m'aider à vivre mieux dans le monde dans lequel je vis.
Alors Alassane nous pose une question, il est au Sénégal. Hein. Alors voilà, typiquement, on est nombreux dans ce cas-là. Si je rentre dans une pièce, nous dit Alassane, de ma maison pour y chercher quelque chose, quand j'arrive dans la pièce, impossible de me souvenir ce que je viens chercher, comment éviter cela ?
Ça s'appelle l'effet de seuil, c'est très fréquent. Et pour retrouver ce qu'on venait chercher dans la pièce, le seul moyen, parce qu'il y a un très fort lien entre la géographie et la mémoire, c'est de retourner en arrière, physiquement, vers l'endroit où on a eu l'idée qu'il fallait aller chercher quelque chose dans la pièce. Et à ce retour en arrière, en général, le souvenir revient. C'est pas tout à fait étonnant, mais c'est comme ça que ça marche.
Pour les étudiants qui font des révisions, pour les fiches d'examen, est-ce qu'on fait des fiches manuscrites ? Vous nous disiez que c'est mieux d'avoir un agenda papier, par exemple. Ou est-ce que les fiches informatisées sont tout aussi efficaces ?
Pour moi, sans aucune hésitation, le papier et le crayon. Toujours le lien avec
débat,
le
ça
réel.
Ça fait débat chez les spécialistes de la mémoire, ça ?
Je crois qu'il y a de plus en plus de consensus sur le fait que la main, le papier et le crayon sont plus efficaces pour la mémorisation.
La prise de notes en cours. On a de plus en plus d'étudiants qui prennent des notes très très vite grâce à l'ordinateur, parce qu'on tape plus vite maintenant des mots sur un clavier que quand on les écrit à la main. Ça veut dire qu'on note plus de choses, du coup.
Ben
on fait moins travailler le sens de la synthèse et la sélection de ce qui est important.
Oui.
Et donc,
c'est moins bon pour la mémoire. C'est-à-dire que quand on est en cours avec un papier et un crayon, on écrit à peu près à 30-40 mots minute. Au clavier, on peut aller jusqu'à 70 mots minute. Quelqu'un qui parle, un cours, s'il parle relativement lentement, c'est entre 150 mots et 200 mots minute. Donc forcément, il y a un tri à faire parce qu'on ne peut pas noter tous les mots. Mais ce tri, c'est déjà une manière d'apprendre. En fait, parce qu'on ne va pas pouvoir tout écrire. Le problème du clavier, c'est que l'attention et l'énergie, elle va être à « je vais écrire le maximum de mots ». Et donc, on va faire moins de tri. Et du coup, on va être moins efficace dans la compréhension et l'apprentissage.
Mais c'est quand même inquiétant, parce que comme aujourd'hui, tout le monde se sert d'un ordinateur, est-ce qu'on va tous perdre la mémoire ? Vous racontez bien dans le livre qu'à l'époque de la Grèce antique, on avait des tablettes de cire. C'était pas donné à tout le monde d'avoir une tablette de cire pour noter, donc on mémorisait. Il y a eu le papier, on s'est dit, oh là là, mais avec la généralisation du papier, est-ce qu'on va continuer à mémoriser ? On a continué malgré tout. L'imprimerie, tout le monde s'est dit, dramatique pour la mémoire. Et l'internet, l'externalisation de la mémoire, est-ce qu'on va tous la perdre ?
Si on ne fait rien pour l'entretenir sur les choses qui nous intéressent, le risque, c'est qu'on ne va plus être capable d'utiliser efficacement notre mémoire. Ça, c'est sûr et certain.
Et vous, Anne de Pomereux, qu'est-ce que vous allez retenir de l'émission ?
Très sympathique. Très envie de revenir.
Mémoire émotionnelle, la plus facile. Merci à vous, en tout cas. Vous publiez « Éloge de la passoire » aux éditions Jean-Claude Lattès. Je retiens l'essentiel. J'oublie le reste. Merci beaucoup d'être venu répondre aux questions des auditeurs. Vous reviendrez, en tout cas.
Merci
à vous.
Beaucoup.
Allez, on débranche, on nettoie son disque dur. On passe à autre chose dans quelques instants. La chronique de Marie-Rose Moreau.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. La chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
À retrouver bien sûr chez 7 milliards le vendredi et puis en podcast sur le site RFI.fr. Vous dirigez la revue transculturelle L'Autre et vous nous proposez des conseils, des analyses pour mieux comprendre comment s'occuper des enfants dans cette série de chroniques. Il est surtout question des bébés selon les cultures. Alors aujourd'hui, comment endormir les bébés et surtout, où doivent-ils dormir pour être bien?
C'est une question existentielle et pratique, en fait. Parce qu'effectivement, pour endormir les bébés, certains leur parlent ou leur chantent doucement et les isolent du monde et de la vie quotidienne. C'est comme ça qu'on fait, nous, en général, ici. D'autres endorment les bébés au milieu de la vie quotidienne, du bruit et des activités, du marché, de la maison, de la cour. Ils les endorment sans baisser la voix et les rythmes, au contraire, en les berçant et en les bougeant énergiquement. Et dans les deux cas, ça marche. Les bébés s'apaisent ou s'endorment. Les effets sur les bébés dépendent donc des intentions et des habitudes, de ce que l'on fait habituellement pour les calmer et les endormir.
Oui, dans les deux cas, ça marche. Sauf qu'il y a beaucoup de cas où ça ne marche pas, où le bébé pleure, où l'entrée dans le sommeil est compliquée. Alors, à quel moment un bébé peut dormir seul dans sa chambre? En tout cas, loin de ses parents.
Oui, c'est ça, loin de ses parents. Là aussi, en fait, ça dépend des habitudes et de ce que l'on considère comme bon pour les bébés. Mais je crois aussi pour les adultes, en fait. Parce que je me souviens de cet exemple qui m'avait beaucoup touchée. C'était Iko, une très jeune maman japonaise qui vient me consulter avec sa fille de 3 ans et son mari français. Le couple est au bord de la rupture car depuis sa naissance, le bébé n'a pas quitté sa maman, s'écrie le père très en colère.
Donc depuis 3 ans.
Voilà, depuis 3 ans, la maman, toutes les nuits, dort avec son bébé dans un lit aménagé pour cela et elle invite le père à dormir soit dans l'autre petit lit dans la chambre du couple, soit seul dans le lit de la chambre de l'enfant. Chambre où l'enfant n'a jamais dormi et où il n'y a un très grand lit. Le père me dit, mais dites-lui, docteur, que les enfants doivent dormir seuls dans leur lit. Elle est grande, elle a 3 ans, elle doit être dans sa chambre. Et c'est pas bon de dormir dans la chambre des parents. C'est ce qu'on apprend ici. Et Iko, elle me dit, mais moi, j'ai dormi avec ma mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Quand je suis rentrée à la grande école, j'ai pu aller dans ma chambre. Si je ne fais pas cela pour ma fille, en plus, je suis loin de ma mère, je suis en France, elle ne veut pas être assez forte pour affronter la vie. Elle va avoir peur. Il a fallu dans cette histoire de couple mixte qu'il y ait une négociation. Et oui, j'ai fait cette négociation pour que les besoins de chacun soient reconnus. Finalement, la maman continuera à dormir avec sa fille la semaine et le week-end, la petite dormira dans sa chambre et les parents dans leur chambre. Et cela jusqu'à 5 ans. On a négocié une année de moins. Mais voyez, dans cette histoire, chacun vivait les habitudes de l'autre comme une sorte d'abandon et presque une déclaration de guerre, mais aussi une manière de faire mal avec les enfants.
Ouais, et on peut aussi mieux comprendre les problèmes de natalité au Japon. Mais alors, le co-sleeping, puisque maintenant c'est comme ça qu'on dit, le co-sleeping est de nouveau à la mode en Europe.
Et même
aux États-Unis.
C'est ça, voilà. C'est qu'effectivement, alors que pendant longtemps chez nous, on a prôné de laisser l'enfant dans sa chambre le plus tôt possible et de le laisser pleurer un petit peu si besoin, depuis peu, on voit des jeunes mamans remettre en cause ce diktat et laisser le bébé dormir près d'elle, comme on faisait avant, avec le bébé dans le lit conjugal. C'est à la fois par commodité, on endort l'enfant sans se relever, et aussi par idéologie, pour être plus proche de son bébé et le rassurer, aussi par exemple pour l'allaiter. C'est bien de faire cela si on le sent, sans contrainte ni obligation, mais ce n'est pas non plus une nécessité, bien sûr.
Donc, en fait, pour qu'un bébé puisse bien s'endormir, que faut-il retenir, finalement?
Bah oui, c'est ça. C'est vraiment l'essentiel, puisqu'on voit que les modes changent et qu'il y a plusieurs manières de faire. Mais il faut que le bébé se sente en sécurité, ses parents aussi. C'est ce berceau, cette sécurité qu'il faut construire. Et les ingrédients peuvent varier d'un lieu à l'autre. La puériculture, elle a aussi des modes.
Tous ces conseils, toutes ces analyses à retrouver en podcast sur RFI.fr à la rubrique émissions parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Prochain épisode de cette série sur les bébés avec vous, Marie-Rose Moreau. On parlera de l'acte de nourrir les bébés, évidemment, un sujet hautement débattu, l'allaitement. Merci à vous tous, l'équipe déjà de 7 milliards de voisins, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouze. Évidemment, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI, l'appli Pure Radio ou le site RFI.fr. Lundi, 7 milliards de voisins, touche pas à mon internet. Depuis le 31 décembre dernier, les Congolais sont privés d'internet. À quoi ressemble votre vie quotidienne sans Internet. Plus de WhatsApp, plus de Facebook, plus de Google. Et ailleurs dans le monde, le web, avec ses problèmes de connexion, ses prix parfois trop élevés, ses taxes. On va vous donner la parole, les voisins, les voisines. Racontez-nous vos droits bafoués. Appelez-nous surtout dès maintenant pour l'émission de lundi. Vous laissez aussi vos messages audio sur le numéro de téléphone WhatsApp pour ceux qui peuvent au 33 1 84 22 71 71 et sinon bien sûr c'est le téléphone mobile au même numéro. On vous donne rendez-vous lundi en direct chez 7 milliards de